demandais justement ce qui faisait de bon depuis quelques années. Bon, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. On se retrouve demain dans le Pit Stop à 8h moins quart, 14h avec les demoiselles.
Salut!
Non, 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 non!
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine.
Oh, oui.
Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Oh, oh. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne pour ce qui est des prochaines 60 minutes. Et juste avant de te présenter mon invité de la soirée, on va regarder ce qui se passe côté météo en ce mardi soir. Quelques nuages pour ce soir, minimum de 12 degrés. Mercredi, demain, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25. Encore là, le facteur humidex va venir un peu brouiller les cartes. On parle d'une température ressentie possible, un peu comme aujourd'hui, là, de 29 degrés. Pour ce qui est de jeudi maintenant, ce sera ensoleillé avec un maximum de 27. Et pour terminer la semaine, ce sera une alternance soleil-nuages avec un 60% de probabilité d'averse, maximum de 22 degrés. Mon invité de ce soir, P.A. Méthode, que j'accueille à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
P.A. Méthode, quel plaisir de te recevoir ce soir.
Oui, bien, très content aussi, fait clair.
J'ai été flabbergasté de voir à quel point t'as de l'air top shape. Sérieux, ouais. Ça faisait quoi 2 ans que je t'avais pas vu? T'étais correct, là, 2 ans. Mais là, je me suis dit, tabarouette, y es-tu en vacances? Puis là, j'ai su qu'en fin de semaine, tu travaillais. T'étais dans le secteur de Charlevoix.
Charlevoix, c'était écœurant.
La vie te va bien, man.
Ben merci. Ben écoute, c'est un... Tu sais, la cinquantaine, ça me faisait peur. Un petit peu. Oui. Puis j'avais le FOMO et tout, un petit peu, le fear of missing out. Là.
Ouais.
Genre, tu sais, y a-tu des affaires que je vais manquer dans la vie? Puis finalement, pour m'apercevoir qu'à 50 ans, j'aime faire les affaires que j'aime déjà. Fait que c'est pour ça que je suis bien. J'ai arrêté ce que j'aimais moins, puis là, je fais juste ce que j'aime, puis je suis en forme. Puis,
comment ça s'est passé à Charlevoix? C'est quoi cette organisation-là à Charlevoix? Je n'ai pas entendu parler.
En fait, c'est Juste pour rire. Depuis que Sylvain Parent-Bédard puis Comédia ont racheté Juste pour rire, c'est exceptionnel ce qui est arrivé.
Ah ouais.
Honnêtement, là, il y a toujours eu une guéguerre entre Québec puis Montréal. Surtout dans l'humour. T'sais. À une certaine époque, ça fait longtemps, là, un petit peu, mais mettons il y a 15 ans passés, si tu faisais un gala à Québec, tu pouvais pas en faire un à Montréal. Puis si tu faisais un gala à Montréal, tu pouvais pas en faire un à Québec. Fait que ça, cette guéguerre-là, ça nuit un peu à l'industrie, mais ça nuit surtout aux artistes parce qu'on devait faire des choix, puis presque un peu choisir notre clan. Moi, je m'ai tout le temps battu pour faire les deux.
Oui.
Puis j'ai été chanceux, je suis un de ceux qui a fait les deux tout le temps.
Mais t'es très apprécié dans la communauté artistique, là. T'es très, très apprécié pour en recevoir beaucoup des humoristes puis des artistes. Moi, quand on me parle de toi, c'est toujours en bien.
Ben,
ce que je trouvais particulier de toi, c'est que t'as fait le choix délibéré de rester à Québec, mais tu vas travailler à Montréal, tu vas travailler partout, mais ta maison, c'est à Québec.
C'est à Québec, ben oui. Puis j'ai besoin de ça. Tu sais, moi, là, chez nous, Yannick, là, tu sais, j'en ai reçu des prix, là, tu sais, des billets platine, or, double platine, triple platine, tu sais, tous les billets que j'ai vendus, puis tout ça. Des posters géants qu'on m'a donnés en cadeau, tu sais, puis il n'y a rien de ça d'affiché chez nous. Il n'y a rien de ça, zéro point de barre. Ils sont dans le fond d'un garde-robe, mes plaques. J'ai une triple platine qui est quand même assez rare, là.
Ouais.
C'est 300 000 billets vendus, puis elle est dans le fond d'un garde-robe. Parce que quand j'arrive chez nous, j'ai besoin d'être chez nous. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça sortir de Montréal. Aller travailler à Montréal, sortir de là. Je fais la route, je me vide la tête pendant que je suis sur la route. J'arrive chez nous à Québec, je suis chez nous. Il y a moins de trafic, il y a moins de son, il y a moins de tout. Ah non, je suis bien ici.
Mais vous êtes plusieurs artistes, justement, à travailler à Montréal, mais rester, que ce soit en périphérie de Montréal, ou encore secteur de Sherbrooke, Estrie, dans ces endroits-là.
Il y en a beaucoup des Laurentides aussi.
Aussi.
Ceux qui ont fait le plus d'argent.
Ouais, t'es pas dans la bonne gang.
Ben non, c'est ça, Rousseau et tout ça sont dans ce coin-là.
Ouais, exact. Puis ils mènent une belle vie, là. C'est un super de beau coin, Laurentides.
Ben oui, mais ça.
C'est
la 15, par exemple.
Donc,
tu veux te taper à 15, toi?
Non, pas du tout.
Okay,
non. Mais Charlevoix, de la façon dont ils ont installé ça, c'était vraiment
c'était top-notch. Malade. Puis là, ils en font dans un petit peu plein de villes du Québec. Ils en font à l'extérieur aussi du Canada. Ils en font un petit peu partout dans plein de pays. C'est des Juste pour rire, genre Juste pour rire, se tape Charlevoix. Juste pour rire, se tape, mettons, Bruxelles. Juste pour rire, se... Fait qu'ils font des petits festivals, des mini-festivals un petit peu partout, mais c'est avec le gros brand de Juste pour rire.
Okay.
Tu sais, c'est les grosses pancartes, puis les grosses... Tu sais, c'est beau, là. Tu sais, t'arrives là, il y a un décor, il y a une thématique, c'était cœur, hein? Okay. Puis ça donne aussi l'occasion... C'est pas tout le monde à Charlevoix qui va se déplacer pour venir, mettons, dans le Vieux-Québec voir un show, puis faire comme un chapeau me parquer... deux, je sais pas comment me rendre... Ben, tu sais, je sais comment me rendre là à pied, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre pour me rendre puis me revenir. Là, on va les voir chez eux,
c'était
cœur.
Okay. Est-ce que c'est des installations qui sont déjà sur place ou c'est éphémère?
Ça c'est éphémère.
Ah, oh, oui. Oui.
Hey, puis c'était tout en container, mais c'est... là, les containers, c'est, la... c'est de shit.
Oui.
Tu sais, il y a eu les planches de bois.
Quand
j'ai eu...
cherché une maison,
ben
là,
oui.
Mais ouais. Container.
Il y a eu les palettes il y a 5 ans.
Ouais.
Puis à ce temps, c'est les containers. Ouais. Prochaine étape, ça va être des bateaux, je sais pas. Mais c'est tout des containers qui s'empilent. C'est une compagnie québécoise qui fait ça.
Ouais.
Et ils peuvent enlever les côtés puis toutes les mettre ensemble. Ça fait une salle de spectacle. Ils ont fait un lounge à côté, un bar en rentrant. Il y a des escaliers. Tu montes, il y a un deuxième étage. C'est écœurant. Le setup était magnifique.
Ah, OK. Puis ouais. Est-ce que toi, tu étais le seul humoriste là ou bien il y en
non,
avait plusieurs?
Il y avait Josiane Aubuchon qui animait la soirée. Puis c'était les soirées mystères. C'est que les gens, ils viennent, mais ils ne savent pas c'est qui va être là. Fait que, puis c'était moi. OK, il était content, je pense.
Ouais. Ben, ils t'ont pas hué.
Non.
T'as-tu de la misère avec la critique, toi?
Oui.
Ouais.
Ouais. Oh, ouais.
Laisse-moi y penser. Oui.
Ouais. J'ai pas de la misère avec la critique. J'ai de la misère avec la critique gratuite.
Ouais.
Je te donne un exemple. À un moment donné, sans nommer l'animateur, il y a un animateur qui fait une chronique de spectacle à Montréal le lendemain de mon show. Et qui parle de mon show. Sauf que je le sais, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu s'asseoir dans ma salle de spectacle.
Ouais.
Puis je le sais qu'à l'entrée, qui est parti. Je le sais. Là, il parle d'un de mes numéros qui n'est plus dans le show. En deuxième partie. T'sais. Il critique un numéro de Chris, non.
Oui.
Non, ouais, ça, ouais. Ça, moi, là, ouais. Ça me met hors de moi.
C'est pas le premier à le faire.
Non, je sais bien, mais ça, regarde, si tu veux me critiquer en disant, moi, personnellement, j'ai pas aimé ça, blablabla. OK, c'est correct, toi, personnellement, t'as pas aimé ça. Mais de dire, les gens, puis ici, puis les... Hey, écoute bien, il y avait 1000 personnes, les 1000 personnes se sont levées pendant 5 minutes.
Ouais.
D'après moi, ils ont pas pire aimé ça. Là.
Toi, ça faisait 1 heure que t'étais parti.
Oui, c'est ça. Toi, ça faisait 1 heure que t'étais parti. Fait que ça, j'ai bien de la misère avec ça. Puis la critique gratuite dans le sens de genre, c'était pas éduqué, ou bien, il parle comme un gars de région, ou des trucs de même. Ouais, mais ça... Ça fait partie de la saveur de. C'est pas.
T'as comment t'as fait là-dessus. Pour passer au travers de la radio? Parce que la radio, c'est
ouais.
Extrêmement cruel.
Ouais.
Il y a eu des gros animateurs qui sont passés à Montréal et à Québec. T'sais, mettons, prenons Gilles Proulx ou encore André Arthur, qui étaient deux animateurs avec un style à peu près pareil. Je veux dire, ces gens-là, il n'y avait pas de gens qui leur écrivaient à chaque fois par texto ou sur les réseaux sociaux. Maudit trou de cul! Jamais. Ça arrivait jamais. Fait que ces gens-là étaient isolés dans des studios, étaient à l'intérieur de leur communauté qui préparait jour après jour. Puis ils étaient isolés. Puis quand ils sortaient, ben, très peu de gens allaient dire à M. Arthur ou M. Gilles Proulx, je déteste ce que vous faites, vous êtes un trou du cul. Ça arrivait jamais.
Jamais.
Mais aujourd'hui, un gars comme toi qui déteste les critiques gratuites, quand tu vas sur les réseaux sociaux ou quand tu regardes le texto passer à job, c'est tough.
C'est sûr. Ben, c'est parce que l'affaire et tout, c'est que. Tu sais, moi, je suis émotif, OK? Mais comme je suis bipolaire puis je prends du lithium, j'ai une humeur stable. Fait que je réagis toujours de la même façon. T'sais, tout le temps, comme que ce soit négatif ou positif, genre, c'est comme ça, tu sais, ça va. Je suis capable de dealer avec ça. Mais quand ça dépasse un petit peu les bornes, ben moi et tout, on dirait que mon piton, il dépasse la borne. Tu sais, fait que je m'en vais direct en haut. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi.
Ouais.
Fait qu'à un moment donné, ces réseaux sociaux, durant la pandémie, entre autres, tous les artistes se sont fait écœurer. On se fait traiter de collabos, de subventionnés. Hey, ça, subventionner du gouvernement, ça, c'est une astuce belle affaire. Moi, là, si je savais comment remplir une demande.
Ça ferait longtemps que tu aurais été subventionné.
Ça ferait longtemps que j'en aurais une. N'est pas une salle de toute ma vie. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ces affaires-là, à un moment donné, ça me met pas en sacrifice jusqu'à temps que je pogne le bon.
Ouais.
Mais celui-là, ça se peut que je le lâche pas. Ça se peut que sur les réseaux sociaux, là, je m'amuse avec pendant des semaines. Ah oui, j'y réponds à tous les jours. Je fais le tour. Là, je suis rendu au courant de tout c'est qui sa famille, d'où il vient, où il travaille, toute l'affaire.
Mais là, le danger quand toi, tu es dans une station de radio, ça, c'est ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que nous, on a accès au numéro de téléphone.
Ben oui.
Quand les auditeurs nous traitent de nom parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre analyse de Québec solidaire, tiens, les gens sont très cruels, puis c'est très froid.
Ouais.
Toi, tu vois le numéro de téléphone, tu tu fais quoi? Tu sais? L'as-tu déjà donné un nom?
Oh, tu le sais, il y en a ce que j'ai fait. Non, mais j'ai déjà appelé, moi. J'ai déjà appelé parce que, tu sais, quand les gens nous textent, ben, on a le numéro de téléphone. Ouais. Il y a quelqu'un qui me dit, genre, ta grosse crise de femme. Tu sais, ma blonde qui doit peser à peu près 110 livres. T'sais. Fait que je l'ai appelé. Je dis, qu'est-ce qu'elle a, ma grosse crise de femme? Comme, pourquoi tu me parles de ma femme? Là? C'est quoi ton. Moi, là. Là, Pascal qui est en avant de moi, pour Pascal que j'aime donc, qui est là, t'es péoté, calme-toi, calme-toi.
Calme-toi.
Calme-toi. Mais non, c'est ça. Viens pas, tu sais, parler de ma femme, ma blonde. ma femme, ma blonde, les deux. Non, tu sais, viens pas parler de ma femme, ma mère, puis ma fille, tu sais,
ouais.
Dans un contexte qui n'a pas rapport.
Ça prendrait plus de PA méthode comme ça dans la vie.
Ah, ben ouais. C'est vrai.
Ben, pas juste pour ce qui est de la radio, mais dans le service à la clientèle, quand il y a des gens qui sont hyper respectueux, là, les gens sont tellement bienveillants que « Oui, monsieur, je comprends que vous êtes fâché. » Puis ils essaient de désamorcer, mais tu sais, à un moment donné, là, des gens qui sont malveillants, puis qui se promènent partout, qui chiolent sur tout, il n'y a personne qui est là pour les ramasser. À part des gars comme toi, qu'à un moment donné, quand la fiose appelle, ça part.
Yann, on les voit pas, ces gens-là, dans la vraie vie.
Non. Ah non,
on les croise jamais.
Ça revient à ce que
moi,
je te
là,
disais
j'ai
tantôt.
Eu là, à peu près. Puis c'est parce que j'ai pris beaucoup de captures d'écran, puis je les ai envoyées au juge, puis tout ça, puis j'ai poursuivi quelqu'un pour des menaces. Là. Mais tu sais, depuis 2020, j'ai eu à peu près une trentaine de mille de messages, d'insultes, puis de plein d'affaires. J'ai pas répondu à tout le monde. Là. J'ai pas répondu à tout le monde, mais ceux à qui j'ai répondu, par exemple, j'étais fâché. Là. J'étais vraiment fâché.
Ouais.
À la radio, j'avais ce filtre-là que je m'obligeais à avoir. Parce que sinon, il y a des fois, j'aurais pété les plombs. Je te donne un exemple, une autre affaire. T'sais, on reçoit une nouvelle de, mettons, un gars qui a battu un enfant de 5 ans avec un bat de baseball. Bon, OK. Ça, moi, les fils se touchent, là. Tu sais, je suis du genre à faire...
Parce que tu vis les émotions en temps réel.
Oui, puis je suis du genre à dire, ça prend un permis pour aller à la pêche, mais n'importe quel vidange peut élever un enfant comme
exact.
Il veut.
Exact.
Ben, tu sais, puis moi, ben, dire pourquoi qu'on n'ouvre pas l'Agora un dimanche après-midi, tu sais, puis qu'on fait une belle activité familiale, emmener vos LOL, des jeux pour enfants, puis à 5 heures, on te passe ça pour les gosses. Hein. Ben, moi, ça me fait rire, puis ça me désamorce un peu de dire une affaire de même. Mais à la radio, tu peux pas dire ça.
Non.
Tu peux pas dire ça. Puis l'avocate, elle va te le dire, que t'as pas le droit de dire ça.
Mais moi, je peux me le permettre. Là.
Toi, ouais, c'est ouais. Ça. Toi, t'es
je peux me le permettre.
T'es un peu de lousse, toi.
Ben, j'ai pas
toi, t'as été élevé dans une autre école.
Exact. J'ai pas de carrière d'humoriste. Mais oui, t'as raison. T'sais, le plus possible, on essaie d'être bienveillant à la radio, mais à la radio, il faut avoir de l'émotion. À la radio, il faut créer de l'image.
Oui. Oh, oui.
À la radio, faut quand il y a une situation qui est inacceptable, faut la dénoncer. Puis oui, quand un PA méthode dit « Moi, ce gars-là qui a battu un enfant ou c'est un pédophile, je te le pendrais par les gosses. » C'est pas très beau à entendre à la radio, mais tous les gars puis toutes les filles en majorité pensent comme toi.
Ben oui.
T'as remercié de l'avoir fait. C'est juste que t'as l'avocat.
Ça, je le voyais aussi arriver là, sur le texto. Là. Les gens étaient d'accord avec moi. Puis tu sais, honnêtement, je lisais des affaires qui étaient pires que ce que je venais de dire.
Oui.
Il y a des gens qui me disaient « Moi, je le connais, je sais ce qu'il est. » Puis tu sais, « Oh, calme-toi. » Mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai adoré faire de la radio parce que c'était nouveau, c'était un beau défi. Puis moi, quand j'embarque dans de quoi, j'embarque dans de quoi à 100%. Je me donne. Fait que là, ça me prenait des gros souliers. Tu sais, je pouvais pas arriver à faire une chronique là, deux fois par semaine. Ça me prenait mon show avec mon nom, puis mon équipe, puis tu sais, fallait que j'y aille all-in. Puis ça m'a pris, tu sais, il a fallu que je chose des gros souliers pour m'apercevoir que qu'est-ce que j'étais bien en gougoune, moi. T'sais, c'est ça l'affaire, j'étais mieux en gougoune.
Mais t'aimes faire ce que tu fais, t'es bon dans ce que tu fais, puis moi je t'ai écouté quelques fois à la radio, on écoutait la compétition, puis j'adorais ce que tu faisais.
T'es fin, merci.
J'avais pas idée qu'à un moment donné t'allais retourner à l'humour à temps plein, là. Je sais pas comment tu l'appelles. Là.
Je savais pas comment, à quel point ça me manquait.
J'étais persuadé que j'allais te pogner avec toi comme compétiteur pendant des années et des années. Quand t'as décidé de sacrer ton camp, ça m'a rassuré, je me suis dit...
Ah ben, je suis content pour toi.
Ouais, ouais. Je me suis dit, j'aime mieux le voir à la télé, ce gars-là.
C'est une autre affaire, ça. Tu sais, à cette heure que je suis plus lié à nulle part, là, je peux parler de ce que je veux.
Ouais.
Moi, ça, là, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, j'étais supposé venir te voir,
mais
je pouvais pas, parce que je travaillais au 93, fait que venir parler d'un autre projet ici, c'était pas bien. Tu sais, c'est ce genre de compétition-là, la même que je te parlais tantôt en Juste pour rire puis Comédia, à l'époque, tu sais, où moi, j'aime aller partout, tu sais, puis être libre de tout. Tu sais, il y a des gens qui me disent, hey, l'autre jour, on t'a vu, t'étais sur Grand Allée de jaser avec Dom Moret. Ben oui. Ben oui, certain. Pourquoi je n'oserais pas? Moi, j'aime tout le monde. Ouais. J'ose avec tout le monde. J'ai pas de conflit avec personne. Puis la compétition, c'est quelque chose que j'haïs dans la vie. Je me suis retiré des oliviers. Tu sais, parce que j'aime pas la compétition.
T'es retiré des oliviers?
Je me suis retiré des oliviers.
Parce que tu voulais pas être nominé.
Non.
T'as pas eu peur que ça te nuise?
M'en fous.
Est-ce que tu t'as l'air borné un peu? T'as pas eu peur que ça te nuise?
Pas en tout. Hey, déjà que j'ai pas fait de l'École nationale de l'humour. J'ai parti ma carrière à partir de Québec avec un accent de la Gaspésie.
Ouais.
Il va me falloir une méchante montagne pour que je sois pas prêt.
Tu étais au marché Jean Talon de Charlebourg.
Oui, monsieur, pendant 50 ans. Pat Lessard encore, que je remercie infiniment, qui a été un des premiers à vraiment croire en moi, en dehors de l'industrie, je parle.
Ouais.
C'était un des premiers à croire en moi. Puis encore aujourd'hui, on est encore super proches. Tu sais, puis ça, tu vois, tout au long de ma carrière, les gens qui se sont rapprochés de moi pour les bonnes raisons sont encore là. Sont encore là. Ça fait 23 ans que j'étais avec mon gérant.
Bien, vous partagez les mêmes valeurs fondamentales. Fait que ça peut pas faire autrement.
Puis moi, tu sais, j'ai pas de filtre, hein, ni positif, ni négatif. Fait que t'as pas de surprise avec moi. T'as pas de menterie. Si tu me poses une question, on va te dire la vérité. Là, fait que eux autres, ben, tu sais, comme des fois, à mon metteur en scène, je dis non, il faudrait que tu t'informes un peu plus. Là, je te trouve un peu trop vieux. Tu sais, dans tes propos. Là, genre, c'est comme t'es trop vieux. Faut que tu vois du jeune un peu. Faut que tu te remettes à jour. Là.
Ouais.
Tu sais, qui fait comme Chris. Je fais quand même la mise en scène de quasiment tout le monde au Québec. Ouais. Mais tu vois, à cause de ça, t'as pas eu le temps d'aller voir les plus jeunes.
Uh-huh.
Va voir des jeunes un peu. Fait que, tu sais, moi, mais je dis pas ça négativement. Tu sais, moi, ma blonde, elle me dit ça me fait-tu bien? Non. Tu sais, c'est comme. J'ai pas ce filtre-là.
Tu dis non?
Oui, je dis non.
Puis ça te dit, trouves-tu, chérie, que j'ai pris un peu de poids? Tu dis oui?
Oui.
OK.
Ben, ça t'en pas à autre chose de moi. Non, mais ça, là, c'est une nestie de responsabilité, Yannick, d'être intègre.
J'en connais une couple qui serait au régime sec de dire ça à leur conjoint.
Oh, je sais bien. Non, mais...
Moi aussi!
T'as-tu vu comment j'ai perdu du poids? Hein? C'est ça. Non, mais, tu sais, c'est être intègre, là, dans la vie, là.
Ouais.
Ça coûte cher.
Ouais.
Ça coûte cher être intègre.
Ouais.
Mais ça t'assure d'une affaire, c'est que tu ne payeras pas pour autre chose que ton intégrité. Si tu es intègre, tu ne payeras pas genre pour des menteries ou tu ne payeras pas genre pour avoir donné des faux espoirs ou quoi que ce soit.
Exact.
Tu es intègre, les gens savent que tu es intègre.
Oui.
Ils te posent une question, ils savent qu'ils vont avoir la réponse. Automatique, raide, même pas réfléchi, ça va tac, tac. Puis ils finissent par se fier sur toi, même si c'est pour leur faire un peu, pas de la peine, là, mais tu sais, genre, c'est pour les brasser ou les choquer un peu. Ils vont être contents parce qu'ils savent que quand ils s'adressent à toi, ils vont avoir la vérité, puis que je vais être intègre. Fait que, tu sais, oui, ça me, tu sais, il y a des fois que ça m'a coûté, tu sais, des affaires. Ça m'a coûté cher d'être intègre, mais d'un autre côté, je suis content parce que.
Mais ça me dit pourquoi que les gens qui se greffent à toi restent avec toi longtemps pour les bonnes raisons. Parce que t'es intègre. Mais t'as été 5 ans à faire de l'humour au marché Jean Talon de Charlebourg. C'est Pat Lessard que je connais un peu, là, qui te faisait confiance puis qui t'a donné tes premières chances. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça allait exploser pour PE Méthode?
Et c'est bon. Mais il y a eu deux. Excusez-moi. Il y a eu deux affaires. Moi, ça faisait un bout déjà que je roulais dans les bars. Moi, ça faisait. J'ai été 18 ans dans la relève. Un de ceux qui a fait de la relève longtemps. Là. J'avais hâte. Je savais pas c'était quand qu'on enlevait ce titre-là de la relève. T'sais.
Ouais.
Puis je ne sais toujours pas c'est quand. Tu étais à la relève, puis à un moment donné, quelqu'un dit que tu n'es plus à la relève. Là. Fait que ça faisait déjà un bout. Fait que je connaissais le milieu au complet. T'sais. Je connaissais tous les autres humoristes. J'avais commencé au DAG avec Mario Grenier.
Ouais.
Ça, Mario, ça a été le premier à m'en
Ça, c'était les lundis juste pour rire.
Les lundis juste pour rire au DAG, en 96, la première fois que j'étais allé là.
Ça brassait.
Ça brassait en tabarouette. Ouais. Ah ouais, c'était le fun, par exemple. Fait que tu sais, je connaissais déjà tout le milieu. À un moment donné, on a arrêté de faire des shows au CLAT parce qu'il avait changé de vocation, je pense. Puis il réparait tout ça, puis on s'est ramassé à la petite grenouille, Charlebourg, l'ancien popcorn.
Oui, sur Henri Bourassa.
Sur Henri Bourassa. Et ma soirée d'ouverture, je fais venir Peter McLeod. Puis là, Peter, après à veiller, on est en bas, à côté de la chambre froide, la loge qui est belle. Puis il dit, Chris, que je t'écœurerais de te voir perdre ton temps, toi. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, man, dis partout ce que je vois dans les festivals, partout, là, tu casses tout, man. Tout le monde est content de te voir. Mais toi, t'animes dans des bars à 400$ par soir. Tu perds ton temps. C'est ça que tu fais, tu perds ton temps. Là. Puis t'es à Québec en plus. Puis tout le monde fait ça. Québec, là, ça a été un esti de soi. Là, il me dit, regarde, check bien ça. Il dit, moi, je te propose de quoi? T'sais, je le connais pas, Peter. Là. Je le connais parce qu'on s'est déjà croisé dans un festival. J'étais allé le voir souvent au DAG, mais on n'est pas des amis. Il dit, dimanche. On était le jeudi. Il dit, dimanche, je m'en vais à Cuba avec Éric Lapointe, Jonas, et ça s'appelait deux shows au show dans le temps. Tu te souviens de ça?
Ouais.
Il allait faire des shows dans le sud là, avec Éric Lapointe. Puis c'est ça, fait qu'il dit, on s'en va.
Éric Lapointe puis Jonas.
Oui, c'est ça. Les rois de la rechute. Fait qu'il s'en va. Puis c'était en 96, là. On était dans le gros vacuum. Oui. Ah oui, il n'y avait pas d'enfant, personne. Là,
non. Tout le monde Internet était tranquille.
Ah,
aussi.
Si, bol, regarde. Fait que il dit, je m'en vais là-bas pendant une semaine avec mon gérant, Eric Young. Puis il dit, je vais y parler que tu viennes faire mes premières parties à l'automne de mon nouveau show que je commence. Que ça s'appelait Sagesse reportée. Puis il dit, en même temps, je vais lui proposer s'il n'embarquerait pas avec moi 50-50 pour produire ton one-man show. Fait que là, moi, je sors de là, j'appelle Steve, mon gérant, tout de suite.
Ouais.
J'ai là, j'ai dit, regarde, ils se sont parlé, puis tout ça, mais j'ai là, ils s'en vont à Cuba lundi. Là, il va revenir la semaine d'après, il est supposé de me rappeler. Là, il va-tu me rappeler? Il va-tu s'en souvenir? T'sais, après une semaine à Cuba avec le club du party, tu sais. Ben, comme de fait, le lundi d'après, il me rappelait. Il me dit, j'en ai parlé avec Eric, dis à Eric, dis à Steve qui appelle Eric, Eric Young de chez Entourage, fait que, puis commencez à vous parler. Fait que là, ils ont commencé à se parler de même. Et dans l'écriture de ma première partie, puis des shows de Peter, est arrivée la tragédie de Mégantic.
Ouais.
Puis moi, j'avais commencé à rouler avec Peter, mais c'était pas mon one-man show, là, je faisais juste les premières parties. Puis là, ils ont fait Avenir Lac Mégantic, qui était le gros, gros show au Centre Bell, qui était en plus, je pense, sur tous les canaux.
Ouais, c'était pour ramasser de l'argent pour
c'était
les
pour
victimes.
C'était pour ramasser de l'argent pour les victimes, ouais. Les familles, puis tout ça. Et là, j'arrive là. Je fais mon show, il y a 10 000 personnes qui se lèvent en furie. Puis tu sais, c'était un événement qui était dur à traîner parce que tu avais la famille des victimes qui était là aussi.
Ouais.
Tu sais, il y avait une section qui était juste les familles des victimes. Fait que tu sais, tu dis, je m'en viens faire des jokes, mais tu sais, quand tu fais des jokes, des fois, tu évites de réfléchir parce que tu l'as déjà écrit ton numéro, tu le tiens, tu le vis, tu es capable de le livrer. Là, faut que tu fasses attention. Tu sais, comme, tu sais, pas de joke d'êtes-vous en feu ou des affaires de même, tu sais. Non, mais c'est niaiseux. Non, mais Yannick, il faut que tu y penses à ça. Je sais que tu trouves ça drôle.
Je trouve pas ça drôle, c'est le malaise.
Ben oui, mais c'est ça, mais il faut que tu fasses
tu
attention.
Tu veux pas vivre ça, là.
Là, j'étais en train de... T'sais, non, il faut que tu fasses attention à ça. Faut que tu réfléchis. Fait que moi, là, ce numéro-là, là, je l'ai pas vu aller, man. Tellement que je réfléchissais, là.
À ce qu'il fallait pas que tu dises.
À ce qu'il fallait pas que je dise.
Wow.
Et je me suis donné comme un malade. Les gens ont adoré ça. Le lendemain, je vendais 10 000 billets dans la même journée.
OK.
Et là, ça a parti en fou.
C'est là que c'est parti.
Fait que, tu vois, dans la première année, on avait déjà passé le 100 000 billets la première année, puis on a dépassé le 300 000 au bout de 495 représentations.
Juste pour revenir sur Peter McLeod, lui, il offrait de te financer à 50 % avec sa compagnie, avec son agence?
Oui, c'est ben avec, en fait, Entourage qui produit son spectacle à lui.
Ouais.
Mais lui, il voulait, tu sais, avec Eric, investir pour faire 50-50 sur ma prod.
Pour toi.
Pour toi. Sauf que Eric a dit non, je prends la prod au complet. Fait que
mais quand même, le gars voulait le faire parce qu'il avait vu quelque chose.
Pat Lassard aussi avait voulu le faire à un moment donné. Pat Lassard, c'est pour ça que je t'ai dit que Pat a été bien important dans ma vie parce qu'à un moment donné, on voulait bâtir mon one-man show puis on avait greffé à notre équipe quelqu'un de l'industrie qui était très connu puis qui tout le monde connaissait sa valeur dans l'industrie. Puis, ben il est arrivé, genre, en tout cas, dans les discussions, il y a peut-être des affaires qu'on aurait mal compris. Puis, finalement, le projet a avorté. Mais tu vois, ça a donné que je suis allé vers Entourage après puis que ça a marché avec Entourage.
Ça a fait boum.
Ouais.
OK. Puis, quand ça a fait boum, y a-tu de l'argent qui rentre automatique?
Ben non, pas de suite.
Non?
Non. Disais des millionnaires de l'humour, Yannick, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux, trois, quatre peut-être. Mais ça ne va pas plus loin que ça.
Non.
L'humour, là, c'est parce que, tu sais, mettons sur un billet à 40$, là, il me revient à peu près 4,25$ là-dessus. Pas plus que ça. Tu sais, les gens disent, Péa, tu as vendu 500 000 billets ton premier show. Fait qu'à 50$, 300 000 billets à 50$, ça fait 15 millions. Chris, non. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, des tournées, c'est sur 4 ans aussi. Puis, tu as tous les frais qu'il faut que tu te déplaces. Tu sais, une pré-prod, ça coûte hyper cher. Les gros, gros shows qui sortent sur le marché, là, c'est minimum 1 million. En pré-prod, puis en pub, puis en décor, puis en location, puis en ci, puis en ça. Ça te prend un producteur qui a 1 million.
Ouais.
Tu peux faire une prod à 300 000. Tu peux faire une prod à 400 000. Mais comment tu vas te battre les fins de semaine avec 2 pages pleines en couleur dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec?
Les réseaux sociaux ont dû aider un peu, là.
Moi, je pense qu'ils ont nui, les réseaux sociaux.
Ah ouais?
Oui. Ils ont nui aux arts vivants, mais ça a permis à des gars comme Arnaud Soli, comme Matt Doff, à se faire découvrir. Puis ça a été bon parce qu'il y avait des perles. Honnêtement, là, il y avait des méchantes belles perles, autant en humour qu'en musique. En musique, ça, le web, là, oui, je sais qu'à cause du web, c'est plus payant de faire de la musique. Sauf que ça donne une exposure que la musique n'a jamais eue.
Exact. Puis
c'est ça qui crie ça un peu.
Mais tu te sers du web pour amener des gens dans ta salle.
Pas tant.
Non?
Non. Non. Moi, je me sers des réseaux sociaux, surtout genre pour dire que ça va bien, que je vais être là à telle place. Tu sais, puis donner de mes nouvelles un peu, puis tout ça, mais... Moi, j'ai bien de la misère à aller vendre des billets.
Mais au niveau financier, ta vie n'a pas changé du tout par rapport à ce que tu avais avant.
Oui, c'est sûr.
Parce que je parlais avec... Ben, je ne veux pas le nommer, là, peut-être que je te le dirai tantôt. Mais lui, là, dans ses premiers chèques de paye, c'est pas quelqu'un qui venait d'une famille bien nantie. Dans ses premiers chèques de paye, il regardait son chèque de paye et il voulait pas que sa mère ou son père tombe là-dessus.
Ouais.
Parce que ses parents travaillaient extrêmement fort dans la vie, puis ils n'étaient pas capables d'avoir 20 % de ça dans leur année. Ils trouvaient ça cruel. Ouais. Il a dû vivre avec ça, cette culpabilité-là. Puis après ça, ben, ça a passé un peu, mais n'en demeure pas moins qu'il y a eu comme un malaise quand les gros chèques ont commencé à rentrer. Puis aujourd'hui, ça va bien.
Pas moins.
Non?
Oh non, non. J'ai aucun problème avec l'argent, moi. Puis j'ai pas de honte non plus. Tu sais quoi, je l'ai travaillé, cet argent-là. Je l'ai travaillé fort pour ça. Puis j'en ai perdu de l'argent aussi. J'en ai perdu vraiment beaucoup. Si je calcule ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, là, je broke pas even, mais t'es bien pas loin.
Mais t'as-tu un investissement à faire, toi? Au départ, tu devais avoir...
Non, j'avais pas à part du temps puis, puis du moral. Non, mais tu vois, mes parents n'ont jamais été riches. Nous autres, on n'a jamais été riches chez nous. Puis quand j'ai commencé à faire un petit peu plus d'argent, j'ai commencé à m'occuper beaucoup de mes parents. J'ai changé leur char.
Ouais.
J'ai fait des réparations à la maison.
Mais ça aussi, ton père, il devait avoir de la misère aussi à accepter ça.
Pas en tout. Il était fier, mon gars.
Il disait pas, P.A., garde ton argent pour toi.
Non, ben...
Parce que c'est le réflexe de tous les pères.
Ben, maman est de même. Là, mais encore dernièrement, tu sais, genre, sa TV était brisée, puis je suis arrivé chez nous avec une 80 quelques pouces. Tu sais, gars, écoute, tu vas voir clair, maman, là. Si jamais tu tombes sur un film d'adulte, tu vas voir dans la madame. Tu vois. mais c'est ça, mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais, puis t'avais pas besoin de faire ça. Puis ça, j'ai dit, man, t'as payé mon cégep pour une université, t'as payé mes deux premiers chars.
Mais c'est notre job.
Tu sais, puis oui, puis crime, j'aurais pas cette carrière-là aujourd'hui. Si ça n'avait pas été de vous autres, tu sais. Puis d'un autre côté, eux autres, ils se sentaient coupables de, à une certaine époque, de ne pas m'avoir encouragé à le faire. Eux autres, c'est surtout ça. C'est
parce
ça,
qu'ils voulaient là-dessus. Que. Mais on a été élevés pareil, toi, puis moi, ils voulaient que tu trouves une stabilité.
En plein ça. Ouais. En plein ça. Tu sais, moi, j'avais déjà 5 ans d'université de fête, là, quand j'ai décidé de tout lâcher et puis faire de l'humour. Là. Puis, tu sais, mon père, lui, dans sa tête, il était tellement fier parce qu'il aurait aimé ça à l'université, mais lui, il fallait qu'il s'occupe de la famille, tu sais, un paquet d'affaires. Puis, à cette époque-là, il revenait en Gaspésie pour s'occuper de sa mère, son père qui était malade, puis tout ça. Fait que, tu sais, je détruisais un rêve, pas un rêve, mais ben un peu un rêve de mon père, tu sais. C'était un rêve par procuration, pareil, là, tu sais, c'était son rêve à lui. Moi, ce que je voulais, c'est de faire de l'humour, puis, tu sais, même au secondaire, je commençais, puis j'en faisais déjà un peu. Mais non, eux autres, ils ont toujours été contents. Ils ont été contents que, tu sais, que mon père n'a pas vu ma maison. Mon père est décédé avant que j'achète ma maison, mais ma mère a vu ma maison. Puis comment qu'elle était fière que je m'achète une maison, tu sais.
Ben oui.
Elle était donc bien fière que je puisse m'acheter une maison en comptant des jokes, tu sais. Fait que, mais non, puis moi, mon rapport à l'argent, là, c'est, tu sais, moi, ma blonde, ma mère, ma fille, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu sais, eux autres, s'ils manquent de rien, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais tu sais, je m'achète pas des Rolex ou des trucs de même. Ben, je suis pas comme. J'aime pas ça flasher non plus. J'aime pas des grosses affaires.
OK. Fait que visiblement, ça n'a pas changé grand-chose pour toi, si ce n'est que du confort des gens qui t'entourent puis ton propre confort.
Ben, tu sais.
Ça tue le stress à.
Ben, tu sais, au lieu d'aller au Désine à Rivière-du-Loup en vacances pendant une semaine, ben, je vais au Mexique.
Ouais, c'est ça. Est-ce que le stress, ça a diminué? T'es-tu un gars angoissé, toi?
Non, j'ai pas l'angoisse de performance non plus, mais j'ai toujours une instabilité après. Moi, je c'est pas rare qu'après le show, genre, j'ai quelqu'un que je connais, puis je vais demander, puis, ça ben, c'était bon, ouais, le monde riait, alors que j'étais là.
Puis c'était pas mal toi qui faisais rire.
C'était pas mal moi qui faisais rire, mais, tu sais, j'ai ce c'est pas une angoisse, mais c'est une petite instabilité encore.
C'est-tu le sentiment d'imposteur? T'as l'impression que tu mérites pas l'amour que les gens te redonnent?
Non, ça, je suis content parce que... Tu sais, s'ils m'aiment, c'est pas parce que j'étais faux. Puis ça, là, je me dois de l'accepter.
Ouais.
Tu sais, j'étais tellement vrai avec eux autres, puis transparent, que s'ils m'aiment, c'est pour les vraies raisons. C'est pour les bonnes raisons. Fait que ça, au début, ça a été dur à accepter. Tu sais, d'aller dans un restaurant, puis tu sais, quelqu'un dit, hey, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et ça, au début, c'était comme.
Tu doutes.
Ouais, c'était comme, ouais, OK, ben, merci. Tu sais pas quoi dire. T'es talent niaiseux.
T'as de l'air épais. Ouais,
ouais. Ouais, tu sais, comme, OK, merci. Mais où vous m'avez vu? Quand vous m'avez vu? Pourquoi vous m'avez vu? C'est-tu moi au moins, Chris? Êtes-vous sûr que c'est pas Phil Laprise? Non, okay. Mais ça, je suis capable. Je suis capable de le prendre.
Ils t'ont mélangé qu'Anthony Cavanaugh.
Oui, c'est ça. Pareil, je transpire au bout. Mais ça, cet amour-là, je suis capable de le prendre. Puis je suis capable de prendre les commentaires positifs aussi. Ça a été dur au début. Mais à un moment donné, t'as pas le choix parce que ça va t'arriver tout le temps.
Ouais.
Puis les gens qui t'aiment pas, ils viennent pas te voir. Puis ils viennent pas te chier sa tête. C'est les gens qui t'aiment qui viennent te voir et qui viennent te le dire. Mais moi, le sentiment d'imposteur que j'ai eu longtemps, c'est que moi, j'étais un conteur. Moi, je raconte des affaires. Fait qu'il faut que ce soit vrai ou que ce soit inspiré de quelque chose de vrai, puis il faut que ce soit collé sur moi. Tu sais, je raconte pas, tu sais, je pars pas sur un fly-bin, let's go, là, on rencontre n'importe quoi.
Ouais.
Fait que ça, au début, j'avais de la misère avec le terme humoriste parce que je me trouvais plus un conteur. Tu sais, moi, j'aimais les Jean-Marc Parent, Pierre Labelle, mon humoriste de tous les temps.
Un exceptionnel.
Oui, vraiment, vraiment. Puis ça a été le premier à faire du vrai stand-up. Tu sais, Yvon faisait du stand-up, mais c'est un saltimbanque. Yvon, tu sais, il faisait de la musique. C'était le drummer de L'Éveillé.
Ouais.
Il avait
tous les talents.
Il avait tous les talents, tu sais. Puis il mixait tout ça, puis il faisait un paquet d'affaires. Tandis que Pierre Labelle, lui, est arrivé en faisant juste du stand-up avec un micro-pied de même, blabla. Les réflexions sur la vie, de l'observation. Ça, j'ai toujours aimé ça. Puis moi, ben, c'est un peu ça que j'aime faire puis que je fais. Fait qu'au début, quand j'arrivais dans les festivals, puis les autres humoristes, je les voyais répéter à la ligne, là, je me disais, hey, qu'est-ce que je suis pas là, moi? Moi, là, tu sais, comme PA, il va falloir écrire ton show. Hein. Trouve-moi quelqu'un qui m'écoute.
Oui, mais tu as tracé ta propre voix, là.
Oui.
Tu sais, parce que tu l'as pas volé à personne, tu t'es pas inspiré de personne, tu t'es développé, tranquillement, on va se le dire. Tu étais longtemps dans relève, ouais. Mais je veux dire, quand ça allait exploser, ça allait exploser. Moi, mon humoriste de toujours, je pense qu'on en avait déjà jasé, toi et moi, c'est Marc Favreau.
Ben oui, mais ça.
Tu sais, je veux dire, c'était un exceptionnel. Il inventait un langage.
Ouais.
Puis il avait une mémoire pour se souvenir de tous les mots qu'il inventait. Il n'y a personne qui a repris l'œuvre de Marc Favreau. Tu sais. Quelqu'un qui reprend l'œuvre de Marc Favreau, va falloir qu'il soit aussi exceptionnel que lui. T'sais. Mais il n'y a personne qui va être capable de reprendre son ouvrage.
Bien, il va être capable de prendre ce qui est déjà fait et de le refaire. Mais il ne peut pas, tu sais, recréer quelque chose à la Marc Favreau, c'est impossible.
Je ne sais pas comment il passait ses nuits, mais Marc Favreau devait être toujours en train de penser.
Tout le temps. Mais tu sais, regarde, tu vois, moi, c'est des genres de personnes que j'admire, ça. Marc Favreau, à la limite, grand corps malade.
Aussi,
des gars de même, là. Des gars qui sont capables de prendre un texte, de le rendre vivant, de jouer avec les mots, d'accorder ça comme de la musique.
Ouais.
Ça, moi, là, je l'ai pas, cette faculté-là. Fait que j'ai bien de l'admiration pour ça, les gens qui font... tu sais, comme Godreau aussi, là, Godreau, là, c'est un Québécois là, qui fait du slam aussi. Là.
Godreau,
c'est ouais. Ça. Il te ressemble un peu. Il y a des airs avec toi.
C'est gentil pour lui.
Oui, c'est... Ça, si je la garde, celle-là, moi. C'est gentil pour lui. Mais c'est ça, tu sais, j'admire les gens qui sont capables de bien écrire, tu sais, d'écrire des affaires qui sont pas nécessairement drôles. Moi, je n'ai pas cette faculté-là. Sauf que j'ai le talent d'être capable de rendre des histoires drôles. Je viens d'un milieu de conteurs. Mon grand-père est un conteur, mon père est un conteur. Les Gaspésiens sont des conteurs. La moindre petite anecdote devient une histoire rocambolesque. Fait que moi, c'est là-dedans un peu que je me sentais imposteur parce qu'il me disait pour les gars-là, peux-tu nous envoyer ton texte? Là, j'envoyais à peu près 5-6 lignes. T'sais, puis il disait, ouais, mais là, c'est 10 minutes qu'il faut que tu fasses. Ben, mais ça va être ça, là, tu sais, comme entre deux, c'est pas défini, là, tu sais, je vois comme je me promène, là, t'sais. Fait que ça a été dur à faire passer aussi. Puis surtout à leur prouver qu'il y avait quand même du sérieux là-dedans. Que j'étais pas genre un gars qui voulait pas travailler, là. C'est pas ça, c'est que. Moi, si tu me donnes un texte à apprendre, tu sais, comme moi, Louis-José, les premiers temps, là, avant qu'il soit connu, on allait faire des shows, mettons, au Lac-Saint-Jean, Robertval, puis tout ça. 8 heures le matin, Louis-José était dans le corridor à répéter ses textes à 8 heures le matin.
Ouais.
Tu sais, ça, cette discipline-là, je l'ai pas.
Puis lui, son show d'une heure, c'est l'équivalent de 4 heures de texte, là?
À peu près, puis c'est tôt. Je te dis, là, c'est à l'exacto. Tellement là, que tu vois pas les coupures, puis rien, puis... Moi, j'ai de l'admiration pour ça. André Sauvé, la même affaire. André Sauvé, André, c'était à la ligne près. Mario Tessier aussi. C'est des gars qui sont capables d'apprendre des quantités de textes avec des tournures de phrases, des mots, des jeux de mots, plein d'affaires. Mais en plus, qui sont capables de le faire sentir. Moi, j'admire ça incroyablement. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime ça. Puis, tu sais, Marc Favreau, entre autres, tu sais, genre, j'écouterais des heures de Marc Favreau, de Pierre Labelle aussi. Mais moi, je suis bon d'en raconter des affaires. Je suis bon à te conter que quand je suis allé me faire opérer pour le cœur, ils m'ont rasé à la poche. Ça, je suis bon là-dedans. Moi, t'as le conté que la madame, elle me tassait ça gauche-droite puis qu'elle me jasait en même temps, puis que moi, j'étais nerveux. Puis je disais, regarde ce que tu fais. Mais oui, regarde ce que tu fais. Okay. Mais tu sais, fait que moi, je suis capable de te raconter ces affaires-là parce que j'ai besoin d'un côté réel dans mon histoire.
T'as-tu trouvé ça tough, faire de la radio? Parce que faire de la radio, bon, il y a des gens qui l'écoutent, la radio, puis disent, oh, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Mais quand tu fais de la radio, tu penses constamment à faire de la radio. Mais là, toi, tes trucs dans la tête pour faire tes spectacles et tout ça, il faut que tu les vives. Ouais. Fait que tu devais te forcer à vivre des trucs pour pouvoir en jaser à la radio, mais aussi faire tes spectacles au travers. Mais quand t'avais des spectacles.
Oui, mais j'ai presque pas pris de spectacle durant deux ans. Mais tu sais, ça, cet exercice-là que j'ai, là, que n'importe quoi qui m'arrive dans la vie, là, que ça devient une histoire dans ma tête, puis je le build-up, puis je le build-up, puis je le build-up tout le temps. Bien, à la radio, c'était la même affaire aussi. C'est que là, j'avais pas besoin de trouver la ligne drôle. Tu sais, nécessairement, tu sais, je vivais de quoi? Tu sais, comme l'histoire des clôtures puis des piscines, puis tout ça. Bon, ben c'est ça, quand ils sont venus, ben là, j'ai raconté ça, ça a duré comme 15-20 minutes. Oui, il y avait du drôle, mais il y avait aussi, tu sais, de l'informatif, puis un peu du parti pris, là, genre comme une petite clôture de marde. Ben ça, je suis capable de faire ça. Sauf que là, si tu veux qu'on parle, de, mettons, de Gaza ou tu sais de quoi que ce soit, là, m'a me préparer en crise, par exemple. Ouais. Là, m'a me lever le matin, puis m'a prendre des notes, puis m'écouter des affaires, puis tout ça. Mais sinon, genre, d'avoir du stock en tête pour faire l'émission, c'est exactement comme quand je fais mon show, quand je fais de l'humour. Il y a tellement d'affaires qui m'arrivent dans la tête qu'à un moment donné, je les build up un petit peu. Puis, whoop, je pars, puis je décolle, puis je fais des liens entre ça. Mais s'il faut que je parle de quelque chose de vraiment sérieux, là, tu sais, je m'assoyais, puis tu sais, je m'informais comme il faut.
T'as étudié 5 ans à l'université. T'es dans quel domaine?
2 ans en communication publique, parce qu'à l'époque, le bac n'existait pas. Il y avait juste une majeure en communication publique. Après ça, j'ai fait une mineure en relations industrielles. Après ça, je suis parti 1 an en Grèce, en études libres en Grèce, pour études de civilisation grecque, avec la mère de Myriam Segal.
Ah oui?
Oui. Monique Delonde-Segal, qui a été une femme qui a changé ma vie. Une prof exceptionnelle, une prof de littérature puis une prof d'histoire hallucinante. Pendant 1 an, on s'est promené.
T'étais en Grèce, là-bas?
Ouais, pendant un an, oui.
Est-ce que tu te promenais nu avec un petit lambeau blanc?
Non. J'étais des culottes courtes.
Avec des feuilles de laurier dans les cheveux, tu
sais. Régulièrement.
Ah oui.
Moi, j'allais à la Mykonos avec mes amis.
Mais ton objectif ultime, c'était quoi?
J'en avais
par
pas.
Par ces études-là?
J'en avais pas. Je te dirais pas décevoir mes parents. C'était pas mal ça. Aujourd'hui, je suis capable de le dire. À l'époque, j'aurais pas été capable de le dire. Là. Mais c'est... Tu sais, quel âge que t'as, Yannick?
Je vais avoir... j'ai 49.
49. Tu vois, on est dans les mêmes âges. Tu le sais qu'à notre époque, quand on était au secondaire, ils nous faisaient voir l'orienteur. Puis là, on avait des feuilles. On arrivait à la maison. On parlait
secondaire
à nos
3,
parents,
je pense.
Ouais, on parlait à nos parents. Ouais, peut-être que je veux faire ça dans la vie. Peut-être que je veux faire ça. Ça, ça leur mettait déjà un projet en tête, eux autres. Avant même que toi, tu en aies un projet, tes parents disaient au monde, ben là, il veut s'en aller en médecine. il allait déjeuner, bruncher le dimanche. Puis, as-tu décidé ce qu'il voulait faire, finalement? Il veut aller en médecine. T'sais? Fait qu'eux autres, ils se mettaient déjà des projets dans la tête. Là, fait que mon père, moi, faisait des relations industrielles.
Ouais.
Fait que c'était mis en tête, moi, que j'aurais retourné, que je serais retourné à Chandler, puis j'aurais fait des relations industrielles au Moulin. Mais le Moulin, il a fermé en 98. Fait que ça n'aurait pas été là. Fait que je pense que ce que je voulais, c'est que j'alignais mes affaires pour que papa soit fier de moi. T'sais. Mais en même temps, il était fier. De tout ce que je faisais, il était fier. Mais je sais pas si c'est... Je sais pas qu'est-ce qui était le plus fort entre « je veux pas le décevoir » puis « je veux qu'il soit fier ». Je pense que « je veux pas le décevoir » était plus fort que « je veux qu'il soit fier de moi ». Pas le décevoir, ça, c'était important. Qu'il soit fier, bien, pourvu qu'au moins, je sois fier, là. T'sais, après ça, s'il est fier de moi, tant mieux. Là.
Ça a-tu été lourd à porter? Je te pose la question, parce que pour mes enfants, je veux ce qu'il y a de mieux, là, mais je voudrais jamais qu'ils souffrent, mes enfants, parce qu'ils veulent pas me décevoir. C'était-tu lourd à porter, toi, de ton côté?
Bien, tu sais, je viens d'un petit milieu. Je viens d'un petit milieu. Nous autres, à partir de secondaire 3, là, on le sait qu'en secondaire 5, on s'en va, là. On le sait, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a comme une fatalité. C'est comme sûr qu'il s'en va aux études. Tu sais, c'est comme ça. Il abandonnera pas, là. C'est ça, la vie, c'est. Tu finis ton secondaire 5, t'as déjà ton trousseau, puis tu t'en vas. Puis tu t'en vas à Gaspé le plus proche, sinon Rimouski, après ça, Québec-Montréal. Fait que, tu sais, depuis le secondaire 3, que, tu sais, mes parents, T'sais, ils savent que je m'en vais au cégep, puis je m'emmène au petit séminaire de Québec ici, en plus, je suis venu au petit séminaire. Là, ils étaient tous contents, eux autres, un collège privé, puis tout ça, puis après ça, l'université, puis... Ça leur a amené tellement de fierté, puis ils me l'ont tellement donné, cette fierté-là, que là, c'était encore plus dur de les décevoir. Parce que c'est pas ça que je demandais, en fait. Moi, je faisais juste suivre comme le courant, tu sais, genre, je m'en vais au cégep après ça,
go with the flow.
Comme tout le monde fait. Comme chez nous, tout le monde fait ça. En secondaire 3, tu reçois un toaster, c'est normal. Tu sais, tu vas t'en aller en secondaire 5.
Le trousseau commence.
Le trousseau commence, c'est normal. Tu sais, ils placent de l'argent à partir du primaire. Pour toi, pour moi que tu t'en vas, tu vas avoir un petit lot avec toi, tu sais. Fait que, tu sais, tout était tellement, tu sais, dans l'ordre des choses qu'eux autres, ils étaient contents. Je faisais mon cégep, j'arrivais à l'université, tout ça. Puis, tu sais, tout allait bien. Puis, à un moment donné, pow, je lâche tout, je fais de l'humour.
T'as intérêt de drôle en l'annonçant.
Les autres, ils voyaient le 7 ans d'investissement qui venait de partir en flamme. Mais,
à 2 500 $ par session.
Ouais, oui. Mais ça, ça a été long avant que mes parents l'acceptent, c'est tout. Ça a été long. Il disait au monde, ben là, il a pris un petit break d'université. Là. Il n'osait pas dire, il essaie de faire de l'humour. Ben...
Ah ouais.
Ouais.
Mais c'était pas de leur temps non plus. Là.
Ben non.
Puis l'effet de proximité qu'on appelle, là, c'est que, non, c'est mon fils, il fera jamais, il réussira jamais en humour. Là. C'est mon fils. Là. Mm. Ben, c'est mon fils, il sera jamais un acteur. C'est ma fille, elle sera jamais Céline Dion. Mm-hmm. Parce que c'est l'effet de proximité au même titre que toi avec ta fille. Tu sais, quand tu lui dis quelque chose, oui, papa, mais si son entraîneur ou si son professeur il dit quelque chose...
C'est une autre affaire.
C'est une autre affaire.
Ouais.
Mais fait que j'imagine que les parents ont ça avec nous autres aussi. All right. Hey, c'est franchement intéressant. Je vous rappelle que ce soir, on passe la soirée avec P.A. Méthode, qui fait de l'humour depuis des années, qui a essayé une carrière de radio pendant quoi? 2 ans?
Puis je m'entends,
il a enfin sacré son camp. Fait que je ne l'ai plus comme compétiteur.
Fait que moi, là, je peux venir te voir.
Ça laisse un peu plus de place dans le marché, mais j'ai la chance de l'avoir en studio avec moi. Puis ça, ben, ça me fait vraiment plaisir.
Pareillement.
On va faire une courte pause et on revient.
Marceau le soir. Marceau le matin. Marceau le matin. Le matin.
Soleil qui se lève avec nous autres. Salut Soleil, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui nous ont écrit entre 5h et 6h. Vous êtes de bonne heure à Québec?
Ok, oui.
C'est qui se passe?
Toi aussi, t'es de bonne heure.
Pensez pas qu'il y avait de la vie avant 10h le matin. Avant, j'étais Marceau le soir. Après ça, j'ai fait Marceau le soir à 18h. Après ça, j'ai fait Marceau le midi. Après ça, j'ai fait Marceau le midi à 10h. Puis là, je fais Marceau le matin de 6h à 10h.
Ouais, fait que là, si on veut descendre encore, va vraiment falloir que tu fasses un show de nuit. Puis là, on va faire le tour.
Exactement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute, des amis, des auditeurs, des collègues de travail. On n'aura pas le temps de vous répondre aujourd'hui, j'en suis pas mal persuadé. Mais sachez que je lis absolument tout ce qui va passer. Puis je vous remercie d'être là. C'est une belle aventure qui débute.
Marceau le matin, tous les jours en semaine, 6h. Puis en rattrapage où, Marceau?
Ben, sur le blvd.fm.
Bravo!
Y a rien là! C'était écrit sur la feuille!
101.
Ce samedi 6 septembre, de 10h à 16h, le Patro Charlebourg ouvre ses portes pour une fête familiale haute en couleurs. Spectacle, animation, maquillage, jeux gonflables, tournois sportifs et food truck. Tout pour le plaisir des petits et des grands. C'est gratuit, c'est convivial et c'est sur la 3e Avenue Est à Québec. Venez créer des souvenirs avec ceux que vous aimez. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails. Présenté par le Patro Charlebourg en collaboration avec la Caisse des Jardins de Charlebourg, la Ville de Québec, le CF L'International et Boulevard 102.1.
À l'Académie Saint-Louis, on joue, on expérimente, on se trompe, on recommence, on découvre, on progresse. On s'amuse à apprendre, on apprend à s'amuser. L'Académie Saint-Louis, la réussite se définit ici.
Du 27 août au 8 septembre, obtenez 20% de rabais sur la peinture Régal Select d'intérieur de Benjamin Moore et découvrez pourquoi il s'agit de la norme d'excellence. Passez chez votre détaillant Benjamin Moore. Chaque achat aide à soutenir les collectivités du Québec. Détails en magasin.
Air Transat présente Emma, incapable de résister à une bonne affaire.
Chérie, pourquoi il y a un château gonflable dans le cours?
Ah, ça! J'ai eu un super bon prix.
Puis une autre souffleuse.
Ah ouais, super bon prix.
Une machine à bulles géante.
Super bon prix.
Un spa dans le salon. Puis nos valises prêtes sur le bord de la porte.
Surprise! On part maintenant.
Avec des offres incroyables sur les vols vers le sud et l'Europe, vous aurez du mal à résister vous aussi. Visitez airtransat.com pour tous les détails. Des conditions s'appliquent. Air Transat, le voyage nous transporte.
Du 4 au 7 septembre, Saint-Roch XP anime la rue Saint-Joseph-Est avec plus de 100 spectacles gratuits d'artistes à découvrir dans des lieux inusités. Programmation complète au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM.
Être connecté à tout et branché aux atouts, le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Borne de recharge, aire de travail équipée, resto café et bus à ma portée. Le quartier Mosaïque offre des condos locatifs branchés au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Faire mes courses à pied, puis ma marche à pied. Quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. À deux pas des galeries de la capitale et d'un immense boisé, le quartier Mosaïque offre de superbes condos locatifs au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir?
Je pense que j'essaierai votre spécial Mercado.fm.
Oh, c'est un excellent choix!
Hé, je suis curieuse, mettez quoi là-dedans?
Une dose de spa rabais, 2 onces de resto à moitié prix, on allonge avec des thermopompes à 50% et un zeste d'activité familiale partout à Québec. Après, on shake le tout sur Mercado.fm et il ne vous reste qu'à savourer votre été sans vous ruiner.
OK, je te prends ça.
Mercado.fm, un cocktail de rabais parfait pour votre été.
Le vendredi 12 septembre prochain, Québec accueille le Grand Prix cycliste. Vous circulez près du parcours ou vous voulez encourager les athlètes? Prévoyez vos déplacements. Consultez ville.quebec.qc.ca/Grand Prix cycliste pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
Envie d'un nouveau défi? Climatisation Paquette est présentement à la recherche d'un frigoriste. Joignez une entreprise en pleine croissance avec des opportunités d'avancement. Nous recherchons quelqu'un de motivé et de passionné. ClimatisationPaquette.com.
Climatisation Paquette.
Les 27 et 28 septembre prochains, participez aux portes ouvertes du Collège Saint-Charles-Garnier. Vous y découvrirez nos 12 profils d'études et notre nouveau pavillon sportif. Culturellement, athlétiquement, scientifiquement, le Collège Saint-Charles-Garnier, oui, absolument. Détails au collègegarnier.com.
Depuis 1983, Attache Remorque Québec 2.0 est votre expert en vente, location et réparation de remorques. Installation d'attache remorque et accessoires de camions. Service rapide et fier distributeur des remorques 100% québécoises, Idéal Cargo et NEM. attache-remorque.com.
Costco recrute pour ses entrepôts de la grande région de Québec. Avec l'ouverture d'un tout nouveau Costco pour l'entreprise sur la rue du Marais en décembre, c'est le moment parfait pour bâtir votre carrière. Participez à notre événement de recrutement du 9 au 11 septembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur costco.ca et recherchez carrière.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien... Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Est avec nous ce soir. Quelle belle soirée on passe ensemble. On a parlé de plein de sujets. Comment on fait pour savoir c'est quoi tes spectacles? Comment on peut tuer? On va sur les réseaux sociaux tout simplement.
Ouais, ben là, c'est sûr que là, tu vois, la radio vient de se terminer. Là, je suis en écriture pour finir de décrire mon prochain one-man show.
Ouais.
On devrait commencer le rodage au printemps-été, puis à l'automne sortir dans les grandes salles. Fait que... habituellement, là, genre avant les fêtes, là, c'est toujours une stratégie marketing parce que c'est Noël. Là. Mais habituellement, ils sortent tout le temps les billets dans ce coin-là. Là. Habituellement, le 1er décembre, là, ça sort. PAMéthode.com pour les annonces de billets et tout ça. Puis sur mes réseaux sociaux aussi.
Ah, c'est très cool. C'est très cool.
Ben, mes réseaux sociaux, j'en ai pas beaucoup, là, mais en tout cas, ceux que j'ai.
Ouais. Je sais que tu n'as pas besoin de félicitations sur ce sujet-là, mais tu n'as pas idée à quel point j'ai un énorme respect pour toi, pour les gens qui sont dans la communauté artistique qui parlent d'enjeux de santé mentale.
Oui.
Sérieusement, vous avez contribué au fait qu'il y a des gens autour de nous autres, que ce soit nos conjointes, nos conjoints, nos amis, nos collègues de travail, nos patrons, qui ont plus honte aujourd'hui de dire « Hey, ça va pas ».
Il y a moins honte, oui.
Puis on en perd de moins en moins, quoique le taux de suicide est encore malheureusement très élevé au Québec, là, mais il y a plus de gens qui décident d'en parler ouvertement puis qui vont demander de l'aide plus facilement, que ce soit dans les différents corps de métier. Là. Écoute, tu sais, dans l'armée, c'était tough. Là. Quand quelqu'un allait demander de l'aide...
C'était une chance, tu recevras Kevin Bilodeau.
Oui, le fameux escalier de la honte là, dans le secteur de Valcartier. Quand tu montais l'escalier de la honte, c'est parce que tu allais demander de l'aide. Les policiers...
Steven Bilodeau.
c'est Steve. C'est, tu parles de l'humoriste, là?
Oui.
Oui, effectivement. C'est quelqu'un que j'aime bien aussi. Les policiers, aujourd'hui, vont demander de l'aide. Les pompiers vont demander de l'aide. Les ambulanciers qui voient des affaires, des fois,
hey, écoute,
tout
moi,
le monde
ne
voudrait pas voir. Félicitations. Ben, pas, je sais que tu ne les accepteras pas, là, mais merci de le faire.
Je vais prendre.
Merci de le faire parce que c'est vraiment important ce que vous faites.
Bien, tu sais, moi, c'est un accident de parcours un peu, tu sais, que j'ai commencé à en parler, là. J'étais allé à Marie-Claude le matin, fait que j'étais faite.
c'était deux filles le matin.
Deux filles
elle
le matin.
Seule.
Elle était toute seule, oui. Tu vas pas là vous vendre des billets, là.
Non.
Quand t'es assis entre Varda et Jean-Marie Lapointe, ça sent la dépression. Là. Fait que... peut me le permettre, c'est mes amis. Mais non, mais c'est ça. La première fois que j'en ai parlé, j'ai eu peur de créer un monstre avec ça.
Ah ouais.
Tu sais, d'être celui qui va toujours parler de ça, tu sais, puis tu sais, qu'on invite juste pour ça, puis juste parler de ça. Puis, en fait, non, c'est que je me suis aperçu qu'il y a bien du monde qui me disait « Aïe, aïe, man, c'est moi et tout, je me sens de même, puis moi et tout, puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé voir quelqu'un, ouais, mais tu sais... » Mais l'affaire aussi, c'est qu'il faut que tu fasses attention, parce qu'il y a quand même un cadre dans lequel tu peux pas embarquer. Tout ce qui est thérapeutique ou tout ce qui est diagnostic, tu peux pas embarquer là-dedans. Parce que tu peux être accusé, de donner un mauvais diagnostic à quelqu'un, dire à quelqu'un, oui, je pense que tu es bipolaire.
Ouais.
Non, va pas là. Mande-y, puis accompagne-le vers quelque part, enligne-le vers une manière peut-être de s'en sortir ou d'en parler ou ça. Mais va pas y dire, ah oui, toi, tu fais ça comme ça. Moi aussi, c'est une même. D'après moi, tu es bipolaire type 2, toi aussi.
Et tu vois, j'avais pas vu cet angle mort-là. Pas en tout.
Ah oui, faut que tu fasses attention.
Parce que je comprends l'objectif de. T'as peu, là. Moi, je n'ai parlé une fois, puis je voulais parler de la problématique, puis des enjeux de santé mentale, mais je voulais pas devenir le porte-étendard de la santé mentale au Québec. Mais là, j'avais oublié qu'il y a des gens qui disaient, oh, Colin, P.A. Méthode, t'as vécu à peu près la même chose que moi, fait qu'ils allaient se confier plus facilement à toi.
Mais ça, on devient comme des psychologues citoyens, là.
Ouais.
Puis ça, mais il faut faire attention à ça parce que...
Ça peut être lourd pour toi aussi.
Ça peut être lourd, puis tu peux aussi faire une gaffe. Ça peut être lourd de conséquences.
Ouais.
Tu sais, tu dis à quelqu'un, ouais, d'après moi, c'est ça, blablabla, puis la personne, elle le prend mal ou quoi que ce soit, puis elle décide d'en finir. Mais la dernière personne à qui t'as parlé, c'est toi. Tu sais, tes conseils étaient so-so, puis tout ça. Fait qu'il faut toujours que tu fasses attention. Fait que moi, j'ai beaucoup d'écoute. J'ai beaucoup d'écoute, mais il y a des fois qu'il faut que je choisisse mes combats. Je peux pas écouter tout le monde. Je peux pas sauver tout le monde non plus. Fait que, puis je veux pas sauver les gens. Je veux que les gens se sauvent. Tu sais, c'est pas à moi d'aller sauver.
Tu l'as découvert comment, toi?
Ah, c'est moi, là, j'avais pogné un méchant down, moi. Moi, en 98, j'avais commencé une médication pour la dépression. Je prenais du Zoloft, la sertraline. Puis à un moment donné, je m'ai mis à ben aller.
Tu l'as enlevé?
Ben oui, le syndrome de Superman. Pogne ça, garocha dans les poubelles, c'est terminé. 4 mois, 5 mois après, oh, ça commence à down. Sauf que moi, le premier médecin que j'avais rencontré m'avait dit que c'était une dépression, m'avait donné du Zoloft. Là, je commençais à donner, puis à donner, ça a duré pendant 2-3 mois. Puis à un moment donné, bien, ça faisait 6 jours que j'étais sur le sofa chez nous. J'avais pas bu, j'avais pas mangé, j'avais pas pris de douche. Les stores étaient fermés, je voulais pas voir personne, je voulais pas parler à personne. Puis, mon ex, à l'époque, Geneviève, elle a appelé mon gérant Steve, puis a dit, là, il faut faire de quoi parce qu'il va mourir. Il va mourir, ça fait 6 jours qu'il a pas mangé, qu'il a pas bu, là. Fait que Steve m'a appelé, puis m'a dit, regarde, là, je te donne un ultimatum, là. T'as une demi-heure pour prendre une douche puis sortir de chez vous, puis je vais aller te chercher, on va aller te porter à l'hôpital, ou Hugo puis moi, parce qu'il gère Hugo Gérard.
Ouais.
Il dit, ben Hugo puis moi, là, on est au Normandin. Il était au Normandin sur Amel. Il dit, on débarque chez vous, on défonce la porte, on sort de
ouais,
là.
Tu veux pas voir Hugo Gérard débarquer?
Ben non.
Steve, il est pas petit non plus.
Il est pas petit non plus. Puis tu sais, c'est deux chums. C'est deux de mes chums. C'est deux personnes qui veulent prendre soin de moi.
Ouais.
Fait que je sais que défoncer une porte aux autres pour me sortir de là, pour prendre soin de moi, c'était rien, là. C'était rien, pas en tout. Fait que j'ai pris une douche, puis j'ai pris un taxi finalement. J'étais allé à l'hôpital, puis en arrivant là-bas, j'ai dit, là, je suis en mauvais état, je veux mourir, je sais pas comment je vais passer ma fin de semaine. Si vous me sortez d'ici, je me rendrai pas lundi, c'est sûr et certain. T'sais. Fait que là, j'ai été interné, c'est comme hospitalisé, mais la porte ne barre pas du même bas. Puis, fait que je suis rentré là pendant quasiment 3 semaines, puis c'est là que j'ai découvert que j'étais bipolaire. Puis quand j'ai découvert que j'étais bipolaire, ça a été la plus belle journée de ma vie, ça. Là.
Révélation.
Hey! Enfin, j'avais le sujet de mes questions.
Parce que quand tu traverses ces épisodes-là, t'es pas dénué d'un certain QI. Là. T'as le même QI, fait que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'y a pas de crise de sens. T'es dans un hôpital psychiatrique. Là.
Non, puis pas juste ça, c'est que tu vois les gens autour de toi.
Il y en a des plus maganés.
Puis t'en as qui sont là pour la 5, puis 6, puis la 7e fois. Puis que là, c'est plus les Tylenol en rentrant. Là. C'est quelque chose d'un petit peu plus rough là, pour qu'ils se tiennent calmes. Puis tu vois ces gens-là, puis c'est des gens que tu croises en vie de tous les jours. Puis tu dis, ça peut être ça. Puis on a tous aussi le Québécois vit dans le syndrome Alice Roby aussi. On pense que la maladie mentale, c'est la lobotomie puis les électrochocs. C'est pas ça. C'est le suivi. C'est une médication. Il y en a qui le font même sans médication.
Exact.
Moi, quand j'ai découvert que j'étais bipolaire, enfin, je pouvais aligner mes questions que je me posais sur quelque chose.
Ouais.
Là, je cherchais des réponses, mais mes questions étaient trop vagues. Genre, pourquoi la vie me fait ça? Pourquoi la vie me fait ça? Tu parles d'une question à te poser. Pourquoi la vie me fait ça? C'est pas une question qu'il faut que tu te poses. Il faut que tu te demandes pourquoi je suis dans cet état-là. Puis, y aurait-tu quelque chose qui fait en sorte que je suis dans cet état-là? Pas te poser toujours la question pourquoi la vie me fait ça? Pourquoi, genre, tu sais, les gens ne m'aiment pas? Les gens t'aiment pas parce que t'es déplaisant, chum. C'est pour ça que les gens ne t'aiment pas. Là. T'es déplaisant parce que t'es pris dans ta petite tête. Tu réfléchis, t'es en train de te pourrir la tête. Faut que tu ailles voir quelqu'un, faut que tu parles à quelqu'un. Moi, à partir de ce moment-là, ça, c'était en 2001. J'ai jamais arrêté ni manqué une dose de mes médicaments depuis ce temps-là. Jamais. Puis, je bois plus d'alcool.
Ah ouais?
Ouais, ça fait 25 ans.
C'était un mauvais mix, l'alcool aussi.
Ouais, c'est pas bon. Je venais agressif, puis je voulais tout le temps me battre, puis je ne sais pas me battre à jeun. Fait que t'imagines chaud, man. C'était ridicule, là. J'avais l'air d'un gars qui essayait de faire une chorégraphie d'art contemporain, là, avec les bras de même dans les airs. Puis tout,
ouais. Tu te souhaites quoi? Parce que j'ai l'impression que t'as tout. T'as de l'air à bien aller, ta santé. Ouais. Tu sais, je te l'ai dit tantôt quand je t'ai vu arriver. Je me disais, t'as-tu perdu du poids? Je suis le même depuis 2 ans. T'as de l'air top shape. T'es souriant. T'as de l'air de bonne humeur. Là, t'as terminé ton contrat de radio parce que tu voulais retourner dans l'humour. T'es en période d'écriture. Tu fais des petits shows une fois de temps en temps. T'étais à Charlevoix en fin de semaine. On peut te souhaiter quoi, Payometa?
De la santé pour mes proches puis moi. Pour que je puisse, tu sais, genre, avoir une maison puis tout ça dans la vie, c'est pas ce qui est important. Moi, c'est les gens qui sont importants, là. Fait que ma blonde, ma fille, ma mère, c'est bien important. Puis les gens qui m'entourent aussi, ma famille proche, qui soient en santé, puis que je puisse faire des trucs avec eux autres. Puis souhaite-moi de pas oublier. C'est ma pire crainte dans la vie.
Pas oublier?
Ouais.
Ben, les gens t'oublieront pas.
Ça, non, les gens m'oublieront pas. Mais moi, j'ai peur d'oublier. Moi, je prends beaucoup de photos. Je prends beaucoup de notes. J'ai peur d'oublier. Moi, là, la mémoire, là, les gens, des fois, me disent c'est quelle sorte de mémoire que tu as là, que tu te souviens de ça. Ouais, j'ai peur d'oublier, moi, dans la vie. Fait que, si un jour je te croise là, dans la rue, puis je te dis hey, Marc-André!
C'est pas moi, ça.
Frappe-moi. Non,
c'est le gars des 100 watts.
Ah oui, c'est ça. Non, mais juste que ça continue de bien aller de même, puis que la vie soit pas trop compliquée, puis que peut-être que je sois capable de faire un feu dans mon foyer à la maison.
Ça, je te le souhaite. Là, tu vas retourner sur les planches dans quelques temps.
Oui.
T'as-tu des idées folles qui vont s'en venir? T'as-tu,
Oui. Mais si on s'était parlé à partir du 17 septembre, j'aurais pu te dire de quoi.
Ah!
Je vais revenir le 17. Ouais, j'ai un gros projet cette année, là, dans toute l'année, là, j'ai un gros projet. Là, on est venu me chercher pour une grosse affaire.
Le Centre Bell, le Centre Vidéo.
Non, c'est pas ça. Non, c'est que tu vas le savoir.
Vas-tu te voir sur Netflix?
Non, ben peut-être, je sais pas, peut-être. Ouais. J'aimerais ça. Hein.
C'est compliqué, ça, Netflix?
Netflix, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un comité qui gère toute la patente. Fait qu'ils arrivent de Toronto, ils viennent te rencontrer, puis ils décident si genre... Tu sais, il y en a qui l'ont eu, là, Matt Duff l'a eu, je pense Rachid l'a eu. Crave, c'est plus facile parce que c'est Bell.
Ouais.
Puis moi, j'ai fait Prime. J'ai fait Prime Vidéo avec Amazon. Et ça, man, ça a été extraordinaire.
Ah ouais? Hey.
Au Québec, on faut se le dire, puis on n'a pas le choix de se le dire, on fait des montadis de belles affaires avec rien.
Ouais.
On fait des choses extraordinaires avec des bouchées de pain. Eux autres, là, comme là, on a tourné, nous autres, à la maison Morin, au centre Morin Center, dans le Vieux-Québec.
Mm-hmm.
Une vieille bibliothèque de 200 ans, puis tout, c'était malade. Le tournage était malade pour mon show, mon concept à moi, puis blabla. Puis là, ils me disent, OK, on va prendre des shots de drone, là. Puis là, je dis, informez-vous avant, parce que je suis pas sûr que dans le Vieux-Québec, vous avez le droit de droner. Je pense que vous n'avez pas le droit au drone. Et en fait, on va le faire en hélicoptère. C'est ça, là. Ça me parle, moi.
Oui.
Ça me parle. Ouais, ça ressemble pas à du satin. Trouvons du satin.
Okay. Fait que le gros projet là, que tu vas annoncer, c'est quoi?
C'est une affaire. Là, que je... ça reste dans ce que je fais et dans ce que j'aime faire. Mais ça va être le fun. Mais surtout, les gens vont faire « Ah! » Ouais, c'est une belle grosse surprise. J'ai hâte en crime. Je t'ai dit, mais ça fait un mois que je me mords la gueule. Là.
On va rester à l'affût, on va rester à l'affût. Playamethode.com.
Oui, pour les biens.
Sinon, tu suis sur tes réseaux sociaux.
Oui, puis réédition aussi bientôt de « Sainte-Sirène du bout du monde », les 4 livres pour enfants que j'ai écrits avec Marie-Christine Leblanc. Qui vont être réédités à l'automne avec donc Sainte-Sirène du bout du monde. Si vous avez des enfants de 6 à 9 ans, c'est des romans.
T'es très talentueux, mais il faut dire que Marie-Christine est bonne aussi.
Oh, moi, j'ai rien que mis mon nom là-dessus pour que ce soit payant.
Salut, P.A. Méthode.
Salut, man.
On se laisse là-dessus, les amis, et on se reparle demain matin, même heure.
Salut. Et on parle.